7h18, les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc Boinchet.
Et aujourd'hui, en relation avec l'actualité des otages en Afrique, vous nous parlez de la recomposition des zones d'influence du Sahara Sahel. Voilà. La zone, c'est plus compliqué à dire, la zone sahélo-saharienne.
On va demander ça à notre invité, André Bourgeot. Bonjour. Moi, j'ai dit saharo-sahélienne, mais enfin, on verra. D'ailleurs, on en a souvent parlé avec vous, André Bourgeot. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Vous avez beaucoup travaillé sur cette région, on va dire. Alors, on renvoie la carte sur Internet, sur notre site, pour délimiter cet espace. C'est toujours utile. C'est un monde hostile à l'homme, on va dire, évidemment, des banalités. C'est une région qui constitue des confins, la tangence de plusieurs mondes, entre le désert et le Sahel, entre le monde arabe et le monde noir, entre l'islam et, on va dire, le christiano-animisme, entre les nomades et les sédentaires. C'est frappant de voir qu'évidemment, ces pays ont des nords et des suds très différenciés. C'est une énorme, superficie, évidemment, que le facteur ethnique y joue, que les capitales sont excentrées dans l'extrême sud et que l'unité nationale ou l'identité nationale peut y être faible. Alors, comment appréhender précisément cette zone et en quoi est-ce qu'il y a des évolutions de recomposition de zones d'influence, justement?
Je crois que si on veut coller à l'actualité, la manière d'appréhender les réalités actuelles, c'est d'avoir une approche géopolitique compte tenu des enjeux qui existent dans cette partie de l'Afrique. Vous avez eu raison de parler de saharo-sahélien et non pas de sahélo-saharien. Enfin, c'est en tout cas mon point de vue, parce qu'effectivement, le problème vient du nord, il vient du Sahara, il vient pas du Sahel. D'où le fait de privilégier le Sahara. Dans un contexte, il y a trois éléments qui permettent de caractériser ce contexte-là. Une compétition sur le contrôle des ressources minières, donc tout ce qui concerne les industries extractives, uranium et pétrole, c'est un premier point. Un second point, tout cet espace-là est aussi le siège de trafic important.
De quel type ?
Trafic de drogue, cocaïne, cannabis. Alors, qui dit cocaïne, cannabis, si vous faites le lien avec la situation qui prévaut actuellement, ça veut dire aussi trafic d'armes. Et puis, le troisième élément, c'est effectivement la présence de l'ACMI, de l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, depuis deux ou trois ans. Donc, la conjugaison de ces trois aspects font en sorte que cette zone constitue un enjeu extrêmement important. Et je pense pouvoir dire que on voit bien les processus de recomposition des zones d'influence à partir de trois cas. Les trois cas, c'est le rôle que joue actuellement l'Algérie, qui est quand même un état fort par rapport aux états riverains tels que la Mauritanie, le Mali et puis le Niger. L'Algérie a fait ce qu'on a appelé, ça date de deux ou trois mois, l'OTAN à Tamanrasset. Donc, ces pays sont signataires d'une convention qui consiste à dire qu'il y a une solidarité entre ces pays-là pour lutter contre le terrorisme engagé par ACMI. C'est la première chose. La deuxième chose est aussi la présence américaine. La présence américaine dans cette partie de l'Afrique existe depuis 2004 avec ce qu'on a appelé le Pan-Sahel Initiative à l'époque de l'administration Bush. Donc, il y a présence de soldats américains issus de conventions entre les États et puis les États-Unis d'Amérique, dont les militaires étaient chargés de former les militaires mauritaniens et maliens à la lutte contre le terrorisme. Donc ça fait déjà une deuxième coordination. Avec la situation qui prévaut actuellement à l'issue de la prise d'otages, des sept otages, dont cinq Français, un Togolais et un Malgache, de la multinationale Areva, vient se greffer maintenant une nouvelle coordination qui se fait un peu sous l'égide de la France.
Alors justement, on a l'impression, André Bourgeot, que sur le plan à la fois, sur le terrain d'abord, sur le plan géographique, on va dire, puis sur le plan géopolitique, on a l'impression qu'il y a une sorte d'internationalisation de cet espace, et également à cause aussi d'ACMI.
Oui, je pense que
Il y a de nouveaux acteurs depuis quelques années et des acteurs lourds.
Absolument. Je crois que lorsque vous parlez d'internationalisation, je crois que c'est tout à fait pertinent.
Oui,
au niveau des États, déjà au niveau des États, dans des États extérieurs, donc effectivement il y a internationalisation, mais même au niveau même de la composition des groupes de l'ACMI. L'ACMI est dirigé par des Arabes, par des Algériens, mais dans sa composition, vous retrouvez des nationalités totalement différentes. Donc, y compris au niveau de la composition, il y a déjà aussi internationalisation des problèmes. Cette internationalisation, je ne la dissocierai pas, si vous voulez, des processus de généralisation d'activités criminelles. On parle de drogue, cocaïne, c'est quand même important, trafic d'armes. Il y a eu aussi les rébellions de 2006, 2007, 2008, 2009 avec la rébellion de certains Touaregs tant au Mali qu'au Niger. Donc là, effectivement, internationalisation. Internationalisation aussi sur le problème du contrôle des ressources naturelles.
On y avait même vu la Chine depuis quelque temps.
Absolument. Donc l'arrivée nouvelle de la Chine, si vous permettez, je peux vous citer un exemple concret. C'est-à-dire que la grande multinationale américaine ExxonMobil devait avoir le permis d'exploitation d'un gisement qui se trouve à Agadem dans le Ténéré nigérien. Et finalement, l'accord ne s'est pas fait parce que Exxon a refusé la construction d'une raffinerie. Dans ce contexte-là, la Chine arrive et la Chine dit « pas de problème, si vous donnez le permis d'exploitation du pétrole de ce gisement-là, nous allons construire une raffinerie et développer aussi le réseau routier ». Donc vous voyez, là, il y a deux types de coopération un petit peu différentes. Une coopération qui consiste à dire « on va exploiter et on va exporter ». Exploiter et exporter, alors que les Chinois disent, bon, on va bien sûr, il y aura certains intérêts aussi pour eux, mais en même temps, ils contribueront à une forme de développement national, y compris dans ces aspects d'autonomie.
Alors, j'allais vous le dire aussi, en ce qui concerne les États, quelle que soit la nature de leur régime, ils ne maîtrisent pas l'entièreté de leur territoire, pour des raisons simplement pratiques. D'autre part, ils sont en but eux-mêmes, ces États, à des convoitises ou régionales ou extra-africaines, etc. Donc, en quoi est-ce que ça joue sur la solidité de ces régimes ?
La situation actuelle affaiblit considérablement les pouvoirs centraux. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le rôle politique de l'ACMI, indépendamment de ses intentions, mais je pense que c'est dans ses intentions, ne vise pas à déstabiliser les pouvoirs en place et mettre en œuvre une nouvelle stratégie qui serait la stratégie qui consisterait à créer des émirats. Si vous créez des émirats, vous remettez de facto en cause l'existence des frontières actuelles issues des indépendances des années 60. Et de ce fait-là, l'État-nation qui organise le politique disparaît. C'est pour ça que je pense qu'il y a des enjeux extrêmement importants. Et dans ce contexte-là, lorsque je fais référence à un processus de généralisation de la criminalité, ça joue un rôle extrêmement important dans ces phénomènes de recomposition de zones d'influence, mais aussi dans des phénomènes de réagencement du politique, y compris des frontières.
Voilà, en tout cas, merci beaucoup. Je rappelle, André Bourgeot, vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Et on y reviendra d'ailleurs sur toute cette question également et cette région vendredi, Marc.